le grand débat de l'Anacofi sur Radio Patrimoine.
Toujours au Cercle Interallié pour le grand débat de l'Anacofi que l'on suit avec intérêt et vous en avez l'habitude chaque année sur Radio Patrimoine. Deuxième table ronde avec Laure Delahousse. Bonjour Laure.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là, directrice générale de l'AFG. Et Nebojša Striković, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup pour l'Anacofi CIF. On va essayer de parler un peu de réglementation, mais sans rentrer trop dans les détails dont on a déjà beaucoup parlé, y compris sur Radio Patrimoine, la RIS, etc. Et puis on va parler un peu de l'utilité d'épargne, et puis on essaiera de voir aussi un petit peu peut-être de crypto, d'action. Enfin, on essaiera de voir la façon dont les épargnants, dont les professionnels peut-être peuvent appréhender ces peut-être nouveaux modes d'investissement. D'abord, Laure Delahousse, on est dans un contexte quand même assez incertain. On se pose des questions sur la politique, ça c'est pas trop notre truc, mais sur la fiscalité, oui. Donc nécessairement sur son patrimoine, sur peut-être les marchés aussi, parce qu'on voit que le CAC 40 sur cette année, bah, il va faire beaucoup moins bien que d'autres zones qui ont peut-être été plus calmes politiquement parlant. Et puis c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de mouvements sur la réglementation, etc. Ne rentrons pas dans les détails, mais tout de même, comment est-ce qu'on vit les choses dans ce contexte un peu incertain ?
Alors c'est vrai que la réglementation et la réglementation fiscale aussi a une importance énorme dans les comportements finalement des épargnants. Et on voit que en matière financière, on a des millefeuilles de réglementation qui sont compliquées à combiner, à faire comprendre aussi aux épargnants. Les épargnants, pour se projeter, pour épargner, ils ont besoin de stabilité. Or, on voit, et vous le disiez tout à l'heure, que si je prends l'environnement français, on a été habitué depuis 7 ans à avoir une stabilité fiscale, et c'est très rassurant finalement pour les épargnants. Avec la création du PFU, avec la loi Pacte qui a poussé l'épargne retraite, on voit bien qu'on était dans une logique de je pousse l'épargne à long terme et j'ai une stabilité fiscale qui permet aux épargnants de se projeter. Aujourd'hui, et on l'a vu dans les discussions récentes sur le dernier PLF qui est tombé aujourd'hui, l'imagination en matière de nouveautés fiscales était à son comble et finalement ça va forcément créer une certaine incertitude et une inquiétude même des épargnants et il faut se méfier des conséquences que ça pourrait avoir sur ces comportements d'épargne et donc où les Français continueraient à amasser de l'épargne parce qu'ils sont inquiets mais elle ne se dirigerait pas vers l'économie, elle serait simplement mise sur des comptes sans être placée et donc sans aucun des bénéfices pour l'économie. Or, la logique avant, c'était bien j'épargne pour financer mes projets et en même temps, ça bénéficie à l'économie, aux entreprises dans lesquelles j'investis.
Nebojša, dans les discussions que vous avez, j'imagine, à l'Anacofi avec vos confrères CIF, etc., qui ont eux aussi des épargnants, finalement, qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qu'on pense de ce contexte un peu particulier, de la confiance qui s'érode peut-être aussi un petit peu ?
La stabilité économique, elle est surtout aussi liée au point de vue politique et géopolitique, puisque je rappelle que 2022, c'est aussi la guerre en Ukraine qui a complètement déstabilisé le continent européen. Donc le retour à l'inflation, le retour à des taux hauts. Donc ça a effrayé nos clients et nos confrères sur cette partie-là. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui a été très 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 bénéfique, c'est qu'on a commencé à donner la valeur à l'argent. Donc, et ça, c'est aujourd'hui quand on prêtait une entreprise à 1% et on prêtait une entreprise à 1,30, on voit pas la différence. C'est quand même 30% de risque en plus puisque le taux est supérieur. Donc ça, c'est des notions sur lesquelles on s'est réapproprié le risque. On a regardé aussi les sous-jacents immobiliers où on était aussi dans une période depuis les années 90 où l'immobilier valorise. Ouais. Mais aujourd'hui, vous pouvez regarder les études entre de l'argent placé en actions à rapporter sur les 30 derniers années de mémoire plus de 856%, sachant que de l'autre côté, l'immobilier parisien a rapporté 356% et l'immobilier du fonds, le fonds euro a rapporté un tout petit peu plus de 300 ou 320% sur la même période. Donc on est vraiment sur des comparatifs totalement différents et on a juste oublié qu'une entreprise, c'est un risque, mais ce risque est à rémunérer. Et aujourd'hui, on bénéficie aussi d'un retour à cette rémunération. C'est ce qui fait que sur le marché financier, que ce soit sur la partie obligataire ou la partie action, on renoue avec des performances. Les clients sont très contents de ces performances et à la fois très inquiets sur cette instabilité politique et fiscale, puisque de l'autre côté, à partir du moment où on gagne de l'argent, on n'aime pas qu'on nous le prenne d'un point de vue fiscal.
Ça veut dire qu'il faut retravailler finalement sur l'utilité de l'épargne lors de la hausse, sur la façon dont, réfléchir à pourquoi on investit, à quoi ça sert, qui on sert.
On est tous dans un environnement qui dépend finalement des financements. C'est-à-dire que je travaille dans une entreprise, cette entreprise elle est financée par des banques, elle est aussi financée lorsque je travaille dans une entreprise cotée par des fonds d'investissement qui viennent investir dans cette entreprise et qui lui permettent de croître. Et donc le geste d'épargner n'est pas un geste abstrait, c'est un geste qui a des conséquences directes sur finalement l'économie dans laquelle j'évolue et dans laquelle j'ai ma famille, mon emploi. Et il faut vraiment, je pense, dans le discours qu'on a vis-à-vis des clients lorsqu'on les rencontre et qu'ils ont de l'argent à épargner, qu'ils fassent le lien en fait entre leur patrimoine, leur épargne, et l'économie et le monde dans lequel ils vivent.
Mais les Français, ils sont plutôt fourmis, enfin, ils sont pas cigales, donc ils ont plutôt tendance à thésauriser, ils ont plutôt envie de garder la maîtrise de leurs finances personnelles parce qu'ils n'aiment pas la rente, par exemple, on l'a vu pendant longtemps sur les produits retraite, ouais. Et puis à la fois, ils entendent les gouvernants qui se disent, tiens, on va leur faire les poches, je pense à Fourcade qui a encore sorti un truc en disant, on va piquer l'épargne pour financer la dette, enfin...
Mais les Français, ils ont aussi besoin, par exemple, de compléter leur retraite. On voit bien que les systèmes par répartition, ils sont forts en France. Ils ont été réformés plusieurs fois et donc, mais malgré tout, vu la démographie et donc le vieillissement de la population, on sait que nos retraites vont baisser et donc on va avoir besoin de les compléter. On va avoir un socle par répartition, fort, mais il va falloir les compléter si on veut garder un niveau de vie. Et donc mon épargne. J'ai besoin, si je la laisse sous mon matelas, elle va pas me permettre, elle va perdre de la valeur par rapport à l'inflation, elle va pas me permettre de financer le complément que je voudrais avoir.
Bien sûr.
Et donc je suis obligée de m'interroger sur cette épargne, qu'est-ce que je peux en faire pour la faire fructifier, pour que me faire gagner de l'argent et pour qu'au moment de ma retraite, je puisse, si j'ai investi 100 par mois pendant 40 ans, et ben à la fin, sur quel argent je peux compter? Est-ce que j'aurai juste le capital que j'ai investi, donc sans aucune plus-value, ou est-ce que en faisant fructifier cette épargne petit à petit, je vais pouvoir doubler, tripler, quadrupler mon capital? Et c'est une nécessité, ça va pas être un must, ça va être utile, nécessaire. Et donc après, cette épargne que je vais investir à long terme, où je veux l'investir? Est-ce que j'en profite et je veux donner une coloration de finance durable à mon épargne? C'est-à-dire qu'est-ce que je veux aussi en même temps contribuer à ce que le monde dans lequel je vis change, se transforme, soit plus durable? Et donc ça, c'est un dialogue avec mon conseiller pour qu'il m'aide à justement diriger mon épargne en fonction de mes aspirations financières, mais aussi d'aspirations plus profondes.
C'est de la pédagogie finalement, Nebojša, qu'il faut aussi savoir faire sur cette utilité de l'épargne, sur à quoi ça sert.
Sur la partie éducation financière, on est tous d'accord, les Français ont besoin d'aide pour améliorer leur éducation financière. Ce qui est important aussi à retenir, c'est que... on n'a pas conscience qu'aujourd'hui, pour répondre à la problématique de la dépendance, le seul outil qu'on a et le premier investissement qu'on fait qu'on va utiliser et dépenser pour la dépendance est notre résidence principale.
Ouais.
Et ça, les gens commencent à en avoir de plus en plus conscience que la fin de vie, elle coûte de l'argent. Et si je ne l'ai pas anticipé, si je ne l'ai pas prévu avant, si je ne l'ai pas épargné, il faut absolument que, du coup, que je ne puisse rien transmettre à mes enfants et que j'utilise cette première réserve. Et c'est le premier point qu'on a attiré en attention, qu'on a été consulté par l'Assemblée nationale sur la problématique de la retraite, en leur disant ils voulaient fiscaliser le PER à la sortie, qu'on paye de l'impôt sur le revenu avant de payer des droits de succession dessus. Vous voyez le cheminement. Et on leur a expliqué, ce qui serait peut-être intéressant plutôt, c'est de dire, en cas de déblocage, si cet argent-là sert à payer ma maison de retraite, que je ne sois pas fiscalisé dessus, parce que ça vient soutenir justement cette partie de dépendance.
La question de la réglementation avec laquelle on a un petit peu amorcé cette discussion, elle peut se poser sur tout ça, parce que lorsque vous abordez l'ESG, etc., on s'aperçoit aussi qu'il y a énormément de règles qui s'imposent, qui viennent dire un petit peu ce qu'il faut faire, et puis comment on doit classer article 8, 9, 6, enfin SFDR, enfin, on a des tas de sigles, ISR, ESG, on a de quoi s'y paumer. Et puis on s'aperçoit qu'en même temps, la réglementation, elle n'est pas fichue de définir ce qu'est un investissement durable. Donc, comment on fait pour avoir de la réglementation d'un côté, et je ne m'attache pas que à l'ESG, hein, c'est philosophique, quoi. D'un côté, de la réglementation, est-elle nécessaire à ce point-là? Et de l'autre côté, une pédagogie pour dire aux gens à quoi ça sert votre épargne.
Je pense qu'on est très fort en Europe pour mettre de la norme. Et donc, on a voulu définir juridiquement ce que c'était que la finance durable. Or, je pense qu'il faut faire confiance. C'est-à-dire que avant que toute cette réglementation existe sur la finance durable, les sociétés de gestion, les conseillers avaient construit des offres de finance durable avec une stratégie qui était expliquée à leurs clients. Ils n'avaient pas besoin de réglementation pour ça. Alors évidemment, comme ce n'était pas du tout réglementé, il y a eu des abus.
Quelques abus, oui, bien
et donc,
sûr. Le greenwashing, etc.
Exactement. Et donc, il a fallu réglementer. Mais on est allé réglementer tellement dans le détail. On a empilé des textes qui n'étaient pas cohérents entre eux. On a parlé de sujets hyper techniques. On a pensé pouvoir vendre à des particuliers des produits de finance durable en parlant taxonomie.
Oui,
comment on arrive
déjà
à
le mot taxonomie,
exactement,
tout le monde a dit c'est un nouvel impôt sur ma.
Et donc on est allé trop loin, on a trop réglementé et par ailleurs on a mis la charrue avant les bœufs puisque on a commencé à définir ce que c'était que la finance durable avant de définir ce que c'était qu'une entreprise durable. Or, là, avec la directive CSRD, pardon pour le mot technique, mais on remet un peu les choses à l'endroit en demandant aux entreprises de donner la façon dont elles sont durables, comment elles sont alignées avec les objectifs de décarbonation à 2030, à 2050. Et ça va nous permettre, nous, investisseurs, de pouvoir davantage sélectionner les entreprises les plus engagées. Et donc, ça aussi, ça contribuera largement.
Et donc, ce sera plus pédagogique.
Oui, ça contribuera plus que la réglementation à avoir des fonds véritablement durables et efficaces.
Dans la table ronde à laquelle vous participiez tous les deux, ça s'est terminé en Bitcoin. Alors, on est parti de la valeur, etc. Effectivement, parce qu'on rappelle pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces 10 derniers jours qu'on a franchi le fameux plafond, enfin, en tout cas pour le moment, ce qui était un plafond des 100 000 dollars. Comment est-ce qu'on doit le prendre ? Je vais mettre les pieds sur la table, là. Moi, j'ai plein de gens, quand je leur parlais actions, ils me disaient « Non, c'est trop risqué. » Tous ces gens-là, ils sont mis à faire du Bitcoin. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de particulier ? Parce qu'une action, on sait ce que c'est une part d'une entreprise. Il y a un business, il y a des ouvriers, il y a des produits, il y a une histoire d'entreprise, souvent. Le Bitcoin...
Je pense que le Bitcoin, il fait rêver. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai la perspective de pouvoir gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Or, quand on investit en actions, on a tellement été stérilisé, pardon pour le mot, mais sur ce qu'on pouvait dire sur les investissements en actions, qu'on n'osait plus parler que de risque et pas de performance. Et donc, je pense que la réglementation, elle insiste trop sur le risque, elle protège trop contre le risque, et elle ne permet pas suffisamment d'expliquer comment je peux valoriser mon épargne et combien, en investissant dans une entreprise, je participe à la croissance de cette entreprise et donc je fais croître mon épargne en même temps. Et il faudrait revenir à ce vocabulaire pour faire rêver. Oui, j'investis dans une entreprise, c'est pas un gros mot, et je vais gagner de l'argent, c'est pas un gros mot non plus, et j'ai pas besoin du Bitcoin pour ça.
Et Beauchard ?
Le mot dans nos métiers, quand on parle de maxi drawdown, c'est-à-dire la perte maximale, quand on écoute les personnes qui...
C'est ce que veut essayer aussi de vous faire éviter l'ESG, par exemple,
voilà,
en surveillant d'autres choses que le pur financier.
Voilà, ouais. On essaye d'éviter ces variations, ces pics, et quand de l'autre côté, on nous parle d'un crypto-actif en nous disant une monnaie, c'est pas une monnaie, à partir du moment où j'ai un sous-jacent, j'ai un produit qui va faire moins 70 ou moins 80% de maxi drawdown. Et même si nous, on devait le classer, sur une échelle de 1 à 7, l'échelle est trop petite pour le classer au-delà du 7. Et le 7, on est vraiment sur l'investissement en entreprise, sur un vrai risque.
C'est-à-dire que le Bitcoin, il faudrait qu'il soit à quoi, à 12, 14, 25.
Il faudrait créer une nouvelle échelle pour lui. Voilà. Aujourd'hui, c'est un étalon, c'est une offre de et la demande. La question, c'est jusqu'à quand ça va durer. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 21 millions de bitcoins qui seront en circulation. Il y a ce qu'on appelle les fameux halving qui divisent par deux à chaque fois le coût. Donc, ça coûte toujours de plus en plus cher à créer un bitcoin. Mais ce qui est important à bien comprendre, si on devait résumer la monnaie dite électronique ou les cryptoactifs, voyez Internet, voyez l'email. Ce qui est important, c'est Internet, donc ce qu'on appelle la blockchain, et le Bitcoin ou la monnaie, l'actif numérique qui serait créé de cette façon-là, parce que j'aime pas l'appeler monnaie, est juste un email. Voilà. Donc c'est juste pour résumer, pour expliquer un petit peu ce que c'est cette fameuse monnaie.
Merci d'avoir pris ces quelques minutes d'échange lors de ce grand débat. Lord de la Housse pour l'AFG et Nebojša Srekovic pour l'Anacofi. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Et à très
bonne
bientôt.
Soirée à vous aussi.
Le grand débat de l'Anacofi sur Radio Patrimoine.